les Britanniques et les Français ont vraiment énormément de produits qui viennent d'Afrique, d'Asie. Et il y a un enrichissement, évidemment, avec les ports coloniaux. Au XVIIIe siècle, ce sont surtout les ports de l'Atlantique, avec, il ne faut jamais l'oublier, hein, la traite esclavagiste des Noirs africains, qui a beaucoup enrichi des ports comme Nantes et Bordeaux.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Cet épisode a été enregistré en public dans le cadre de l'inauguration de OBA, nouveau lieu de vie dédié à la cuisine durable, situé dans le parc Martin Luther King, dans l'écoquartier de Clichy-Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, un lieu porté par l'équipe du Hasard Ludique. J'aimerais commencer cet épisode par une question que je vous invite à vous poser là tout de suite maintenant. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes senti réellement confronté à un ailleurs ? Une sensation que vous n'aviez jamais connue avant, une émotion nouvelle, un petit bouleversement intérieur, un déplacement, un changement de perspective. Dans l'imaginaire collectif, le moyen le plus direct pour ressentir et vivre l'ailleurs, la confrontation à la différence, c'est le voyage. Faisons ici un petit détour par la littérature. En découvrant les Occidentaux, les Amérindiens se demandèrent s'ils étaient des dieux ou des hommes. En découvrant les Amérindiens, les Occidentaux se demandèrent de quelle espèce de singe il s'agissait. Ceci est un extrait du roman « Biblique des derniers gestes » écrit par Patrick Chamoiseau. Et c'est aussi par cette citation que la sociologue de l'alimentation Faustine Régnier a choisi de commencer son livre « L'exotisme culinaire, essai sur les saveurs de l'autre » publié aux Presses universitaires de France. Elle commente « Cette amère constatation suggère et embrasse l'ampleur de l'éventail des perceptions de l'autre » tout comme la singularité du regard occidental. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. L'Europe est confrontée à un autre radicalement différent. Elle découvre une figure de l'altérité et au fil des siècles, cette image de l'autre ne cessera de se constituer, positive ou négative, bonne ou mauvaise, attirante ou repoussante, sollicitant l'étude de l'élaboration des représentations de l'autre. Et je précise que l'autre ici est orthographié avec un grand A. En préparant cette table ronde et en tournant et en retournant l'idée de l'autre dans tous les sens, j'ai eu l'impression de déceler dans l'idée de l'autre la même ambivalence que dans l'idée d'une île. Vous savez, cette île qui, dans l'imaginaire collectif, peut connoter l'évasion, cette île paradisiaque qu'on voit dans les pubs en 4x3 dans le métro, ce bout de terre avec son palmier au milieu, invariablement planté dans une eau turquoise. Mais une île peut également connoter l'enfermement, cette île prison, cette île qui rend fou. Le château d'If à Marseille, l'île Sainte-Hélène, l'île d'Alcatraz. Une île, c'est donc ironiquement à la fois l'évasion des uns et l'enfermement des autres. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'autre. L'autre est multiple. L'autre, c'est tantôt celui qui est différent de nous, celui qui ne fait pas partie de nous, celui qui est là-bas pendant qu'on est ici, celui qui nous fait peur, et la peur de l'étranger, ça s'appelle la xénophobie. Mais l'autre, c'est aussi celui qui connote l'ailleurs, celui dont on chérit l'altérité, celui qui est singulier, celui qui est différent, mais dont on va précisément chérir la différence, saluer la différence. Et alors, l'autre devient l'exotisme, celui qui va nous faire voyager, celui qui va nous faire vibrer. Quand je visite un nouveau pays, je m'ouvre à la possibilité d'être étonné. Je cherche à découvrir de nouvelles saveurs, je m'attends à ressentir un décalage. C'est aussi ce qui peut se passer dans les pourtours d'une assiette, avec des ingrédients qui viennent de loin, mais aussi avec d'autres qui viennent de moins loin, mais qu'on apprend à redécouvrir. Parler d'exotisme culinaire aujourd'hui permet de soulever plein d'interrogations. Comment cet attrait pour l'ailleurs est-il arrivé sur nos tables ? Quel est le rôle de la colonisation dans ce qui est devenu une distinction sociale ? Qu'est-ce que l'exotisme et pour qui ? Qu'est-ce que l'exotisme quand il n'est pas occidentalo-centré ? Et d'ailleurs, l'appelle-t-on encore exotisme dans d'autres pays ? Et que faire de l'exotisme en ces temps de dérèglement climatique avancé ? La réponse se loge-t-elle dans les plantes sauvages, qui ont des saveurs de fruits exotiques, telles que les fleurs de tagette qui ont un goût de fruits de la passion ? Pour répondre à ces questions, typiques du fil rouge qu'on adore tirer avec Buffon, le fil rouge de la nourriture comme loupe pour parler de faits de société, nous sommes en compagnie de l'historien Denis Saillard qui a dirigé l'ouvrage « Le goût des autres, de l'expérience de l'altérité gastronomique à l'appropriation » publié aux Presses universitaires de Nancy. Nous avons également la chance d'avoir avec nous l'ethnologue Sandrine Ruhlmann, spécialiste des patrimoines alimentaires des bergers en Mongolie, qui a animé un séminaire intitulé « Culture et traditions alimentaires » dans le master « Boire, manger, vivre » à Sciences Po Lille. Et nous avons aussi la joie d'accueillir le chef François Pastot, qui a été chef des restaurants L'Épi du Pain et L'Épi Malin, deux restaurants qui se sont illustrés très tôt dans une démarche d'éco-responsabilité. François Pastot est aussi l'auteur de « Manger et cuisiner éco-responsable, sauver la planète à coups de fourchette ». Et il se décrit comme un militant de la cuisine responsable. Pour commencer, je leur ai tout simplement demandé de partager avec nous un exemple de plat ou d'ingrédient qui a su les faire voyager. Dans l'ordre, vous entendrez Sandrine Ruhlmann, puis Denis Saillard et enfin François Pastot.
Alors moi, ce serait, je ne sais plus à quand ça remonte, mais à plus de 10 ans, c'était donc dans un restaurant et c'était un carpaccio de noix de Saint-Jacques. Un carpaccio de Saint-Jacques, je vais me faire taper sur les doigts. Ouais, un carpaccio de Saint-Jacques avec une réduction de vanille, du poivre, accompagné d'un champagne avec une note d'agrumes et plus particulièrement de pamplemousse rouge. Voilà, et l'un n'allant pas sans l'autre pour cette entrée-là, du coup, je les associe et c'est vrai que l'association des deux m'avait transportée. Je ne saurais pas dire où sur le moment, ça m'avait surpris. En plus, à l'époque, j'étais moins attirée vers le cru, en tout cas pour ce qui était des fruits de mer et du poisson. Et du coup, pour moi, c'était une vraie découverte, une vraie surprise en bouche et un bonheur. Et c'est vrai que ça m'avait transportée.
C'est intéressant, d'ailleurs, cette idée d'être transportée quelque part, mais de ne pas être certain de savoir où.
Ouais, ça peut être confortable et inconfortable. En tout cas, pour moi, ça reste un souvenir agréable.
Denis Saillard.
Comme vous avez cité Faustine Régnier, donc c'est quelqu'un que je connais très bien, puisque... Elle co-dirige avec moi un séminaire de recherche sur médiation et médiation de la gastronomie. Et elle, sa définition dans l'étude que vous avez citée, définition de l'exotisme, ce n'est pas une question de distance géographique par rapport à nous. L'exotisme, c'est en fait, peut être dans le village ou dans le pays juste à côté de chez nous. Donc très très souvent, le mot exotique est un plus difficile à définir, et beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de très éloigné par la distance, ce qui est pas le cas, parce que quelque chose qui nous est très très proche géographiquement, si on l'a jamais consommé, est exotique. Alors mon exemple, lui, si par rapport à moi, est très lointain, et comme Sandrine a cité quelque chose qu'elle a apprécié, par contraste, je vais citer quelque chose de nourriture que personnellement j'ai toujours beaucoup de mal. Pour moi, ça reste quelque chose d'autre. Et ça va peut-être vous faire bondir parce que je suis presque persuadé que tout le monde ici a déjà une forte expérience de. C'est pas exactement un plat, c'est une sauce. C'est la fameuse sauce soja.
Ah oui?
De la cuisine asiatique. Et j'ai... Alors, la première fois que j'en ai mangé, effectivement, c'était. Ce que Claude Fischler, mais Sandrine est mieux placée que moi pour vous parler de la néophobie, donc le rejet de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui est exotique, et la néophilie, là pour le coup c'est de la néophobie. J'ai vraiment longtemps fait un rejet de la sauce soja, et ça commence à aller mieux, ça commence seulement. Donc comme quoi, par rapport à quelque chose qui est exotique, bon, c'est très très lié, si vous voulez, à la nature humaine. Ça dépend des gens, ça dépend des goûts, ça dépend de notre culture, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ces réactions néophiles, néophobes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent donc changer. On peut être néophobe au départ sur tel ou tel plat, tel ou tel, et puis notre palais change parce qu'on vieillit, parce qu'on a plus d'expérience, etc., etc. Donc c'est vraiment des notions extrêmement intéressantes, surtout pour moi qui suis historien, parce que comme je travaille sur le temps, donc c'est ça en fait, avec le temps, la perception de l'exotisme change, et ce qui est exotique peut devenir complètement habituel en fait. Et donc pour moi c'est pas encore tout à fait le cas. avec cet exemple.
C'est intéressant. Hier soir encore, on jouait avec des amis au jeu de « Qu'est-ce que tu emporterais sur une île déserte ?» La sauce soja faisait partie de mes trois ingrédients. L'île déserte paradisiaque comme l'île prison. Dans tous les cas, je prends ma sauce soja. Et vous, François Pasteau ?
Eh ben moi, bon, je rejoins complètement Denis sur l'exotisme culinaire. On n'est pas forcé d'aller chercher les produits très loin. On peut tout à fait s'évader avec des produits qui sont au bout de notre main, je vais dire, juste autour de chez nous. Et en fait, ce qui est important pour ressentir l'exotisme dans une assiette, c'est les différences de texture, les différences de saveur, mais qui sont, que l'on trouve chez nous, encore une fois, avec des techniques culinaires qui peuvent complètement changer, en fait, le produit au niveau de la mâche, comme on dit, quand vous mettez dans votre bouche. Et tout ça, ça peut très simplement, en fait, créer une explosion de saveurs qui vont vous faire voyager. Et c'est vrai que exotisme, on en fait en France depuis très longtemps dans nos cuisines, sans rajouter la moindre épice, hein, simplement avec des aromates qui sont là, des fruits ou des légumes de saison, et on peut vraiment s'amuser avec tous ces très bons produits qui sont autour de chez nous, encore une fois, bien élevés, bien travaillés et bien cuisinés surtout. Et alors bon, j'ai des exemples culinaires, j'en ai plein, ça va être difficile de faire un choix, mais je dirais le dernier que j'ai en tête cet hiver, c'était en fait un bouillon en fait de céleri et carottes avec de l'orange dedans, des zestes d'orange et du jus d'orange chaud, des petites graines de coriandre, puisqu'on était en hiver, il n'y avait pas de coriandre fraîche. Et tout ça, c'était juste versé bouillant sur des chinchards. Le chinchard, donc c'est un poisson qui est issu de la pêche durable, dont on ne consomme pas beaucoup en France, mais je vous invite vraiment à le découvrir. Et ça cuisait juste le chinchard au dernier moment, et vous mettiez ça en bouche, et il y avait une explosion de saveur.
Denis Saillard, comment au cours de l'histoire, l'exotisme culinaire est-il né ?
Oui, alors, vaste question qu'on peut peut-être resserrer sur la France, parce que l'exotisme, hein, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, au début, dépend du point de départ. Hein. Si on regarde l'exotisme, je ne sais pas si on se place aux États-Unis, si on se place au Chili, ou si on se place au Sénégal, ou aux îles Fidji, on n'a pas la même perception, et sinon que ce n'est pas la même histoire. Donc déjà l'histoire de France culinaire et gastronomique est déjà assez compliquée. Elle est mieux connue aujourd'hui hein, grâce à tous les historiens qui m'ont précédé, les sociologues, anthropologues, etc. Donc peut-être que l'idée principale sur laquelle j'insisterai sur cuisine française et exotisme, c'est peut-être de démolir des idées reçues qui traînent encore sur Internet, mais aussi parfois dans des livres dits savants, scientifiques, de moins en moins, parce qu'on a quand même fait des progrès, mais enfin, c'est des idées qui traînent encore. Et l'idée, donc, l'idée reçue, ça serait que la France, et en particulier pour la haute cuisine, hein, la cuisine donc, des chefs, d'abord aristocratique, hein, sous l'Ancien Régime, puis la cuisine des grands restaurants au XIXe siècle et XXe siècle, l'idée qui traîne, c'est que la cuisine française aurait été très fermée à ce qui était étranger, à ce qui était exotique. Or, il n'y a rien de plus faux quand on regarde vraiment dans ce qui s'est réellement passé. Simplement, cette confusion vient du fait que les éléments qui viennent de l'étranger sont intégrés partiellement avec le savoir-faire des cuisiniers, des chefs cuisiniers français. Mais les chefs cuisiniers français ont pris énormément d'ingrédients et de produits venant de l'étranger, venant de l'exotisme. Donc, je me rappelle d'un article que j'avais publié. C'est pas moi qui avais trouvé le titre, mais c'est un très bon titre. C'était l'exotisme à la moulinette française, c'est-à-dire que ce qui venait de l'étranger, ce qui venait de loin ou du proche étranger, était passé au savoir-faire français. Mais en fait, il y a plein de tout ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, tous les produits qui sont venus d'Amérique. La tomate, par exemple, le maïs, la patate, évidemment, même si ça a pris du temps en Europe, mais pas seulement en France, on finit par être intégré à la cuisine française, mais pas des plats vraiment étrangers dans leur totalité. Contrairement, par exemple, à l'Angleterre, où, par exemple, les currys indiens ont dès le XVIIIe siècle, étaient intégrés à la cuisine britannique, avec quand même une certaine adaptation, parce que le goût anglais, peut-être, ne se prêtait pas complètement à une cuisine quand même trop épicée. Mais dans les livres de recettes anglais au XVIIIe siècle, on trouve déjà, c'est marqué cuisine anglaise, on trouve déjà des curry. Alors que même si la France, le Royaume de France à l'époque a déjà des colonies, beaucoup plus petites évidemment qu'au XIXe siècle, mais enfin la France a déjà des îles un peu partout, a des comptoirs en Inde. La France, dans les livres de cuisine français, il n'y a pas de recette qui vient d'Inde ou qui vient des Antilles textuellement. Par contre, il y a des produits qui viennent des Indes et des produits qui viennent des Antilles.
Donc, prendre ces apports de l'étranger et les nationaliser, c'est donc la figure qu'il y a derrière aussi ce mouvement, c'est Antonin Carême.
Oui, oui, tout à fait. Chef cuisinier et encore peut-être plus pâtissier. Il a une formation de grand chef pâtissier. C'est l'époque du Premier Empire, Napoléon Ier, Talleyrand, le Congrès de Vienne. Et il est quand même assez frappant. Et pour montrer qu'en France, vraiment, tout ce qui est autour de la table et de la nourriture nous est très, très important à nous, Français, c'est que le terme de nationaliser, à l'époque, en 1800, est quasiment un néologisme. Nationaliser quelque chose, c'est un mot qui est quasiment pas encore employé. Et un des premiers qui l'emploie, c'est justement le chef cuisinier et pâtissier Carême, pour la cuisine. Il faut nationaliser les apports culinaires étrangers. Il faut les rendre français. Mais les prendre, ça enrichit. La cuisine française va être enrichie par tous ces apports, mais en les nationalisant. Après, ce terme est devenu culturel, économique, mais il est quand même assez frappant, comme francisé d'ailleurs. La francisation, la nationalisation, a d'abord eu un usage pour la cuisine.
Et donc, dans ce contexte, évidemment, les empires coloniaux ont pu particulièrement profiter de ces apports d'ingrédients aux quatre coins du globe.
Oui, oui. La France a le deuxième empire colonial après l'Angleterre, au XIXe siècle. Et donc, tous les pays européens, mais donc surtout les Britanniques et les Français, ont vraiment énormément de produits qui viennent d'Afrique, d'Asie, un peu moins des Amériques, encore que la France et l'Angleterre ont des possessions surtout en Amérique centrale. Donc, il y a un enrichissement, évidemment, avec les ports coloniaux. Au XVIIIe siècle, ce sont surtout les ports de l'Atlantique, avec, il ne faut jamais l'oublier, la traite des esclavagistes, des Noirs africains, qui a beaucoup enrichi des ports comme Nantes et Bordeaux. Et puis au XIXe siècle, c'est plutôt un port comme Marseille, enfin peu exclusivement, mais disons commercialement, Marseille, très tourné sur l'Indochine, avec l'ouverture du canal de Suez, très tourné sur l'Asie, évidemment la Méditerranée. Le port de Marseille et tout l'arrière-pays se développent énormément.
Sandrine Ruhlmann, vous êtes ethnologue, et l'ethnologie, c'est justement, précisément, l'étude de l'autre, avec ce grand A.
Alors, oui, c'est aussi quelque chose qu'on discute aujourd'hui, qui est en ethnologie, qui nous pose problème, d'ailleurs. C'est cette naissance, comme ça, de cette discipline en France et en Occident. C'est que nous, on a commencé par étudier l'autre, et c'est une naissance en contexte colonial, en fait. Et ça nous colle encore un peu à la peau, et on a un formatage aussi où, en Occident, on va étudier l'autre avec un grand A, pour mieux se comprendre soi-même, donc soi avec un grand S. Il y a tout un formatage comme ça, théorique et méthodologique, où on va justement rechercher l'étrangeté pour mieux comprendre l'altérité, et donc pas l'étrangeté au sens de curiosité, mais quoi que. Et en fait, aujourd'hui, on commence à remettre ça en question du fait du contexte colonial, mais aussi parce qu'on voit bien que dans les autres pays, ailleurs qu'en Occident, ils ne font pas de l'ethnologie chez l'autre, ils font de l'ethnologie chez eux. Donc en Mongolie, les ethnologues mongols font de l'ethnologie chez les Mongols. En Chine, pareil, etc. Donc, c'est quelque chose qui est quand même propre à notre culture à nous, à notre culture occidentale. Et ça me fait penser, ce que tu as dit tout à l'heure, Denis, à la notion d'incorporation de Claude Lévi-Strauss, qui est un sociologue spécialiste de l'alimentation, qui parle du coup de cette incorporation. Donc, les êtres humains, donc là, sans distinction, hein, de l'exode de l'autre et de soi, c'est prendre dans son entourage, dans son environnement, des produits, des ingrédients, hein, des produits bruts qu'il va transformer. Donc, chacun à sa manière, en fonction de sa culture, de ses savoir-faire. Et va les transformer et les rendre comestibles pour soi, et donc les incorporer. L'incorporation, elle n'est pas que sur le plan physico-chimique, biologique, elle est parce qu'on ne mange pas que pour sustenter une faim, mais on mange aussi pour sustenter son âme, son esprit, et ça définit une culture culinaire en tout cas. Et cette incorporation, bah, c'est incorporer des goûts aussi. Donc des goûts, les siens et les goûts qu'on va découvrir. Et donc ça, forcément, au début, on avait une échelle assez réduite. Hein. La découverte, elle commençait en bas de chez soi, puis un peu plus loin, et etc. Au fil de l'histoire et au fil des changements d'échelle, justement. Donc voilà, c'est sûr que tout à l'heure, j'évoquais cette découverte de noix de Saint-Jacques. J'en ai eu une autre découverte quand j'ai travaillé en Mongolie. Ça a été plutôt le goût de la queue de mouton, par exemple.
C'est bon. Enfin, ça t'a plu, en tout cas.
Je saurais... voilà, par typiquement un exemple. C'est quelque chose qui n'est pas bien séant de dire. On a une posture d'ethnologue qui est la neutralité ou l'objectivité. Donc typiquement, c'est quelque chose qui va disparaître de nos productions scientifiques. Par contre, il est bien vu de raconter des anecdotes. Donc c'est un espèce d'entre-deux, et puis pendant très longtemps, dans les écrits des anthropologues ou des ethnologues, on mystifiait. Donc il y a eu tout ce mouvement très romantique, très esthétisant, où on mystifiait l'autre. C'est pour ça qu'on lui a mis un grand A d'ailleurs, parce que c'était un peu pour rompre quand même avec et en fait au départ c'était très évolutionniste, très pour ne pas dire darwinien en fait, hein, mais c'était vraiment sur, et il y avait toute une culture comme ça qu'on trouve dans les premières productions en anthropologie de l'alimentation, où c'est très esthétisant, avec une façon de narrer les choses très spécifique, qui a été critiqué par Alban Bensa d'ailleurs dans La fin de l'exotisme, où on mystifie comme ça, où l'exotisme, l'autre, voilà. Et c'est quelque chose qu'on essaye de remettre en question, mais c'est les idées ont la vie dure, et les concepts aussi, et le terme d'exotisme, comme celui de tradition d'ailleurs. Une tradition, parler d'une tradition, c'est compliqué, c'est difficile à définir, et c'est des mots qu'on met entre guillemets du coup. Ouais. Et il y a des modes comme ça, et donc dans l'alimentation ou même dans la gastronomie, hein, vous avez des modes aussi de termes comme ça. La cuisine fusion, la cuisine moléculaire, haute cuisine, c'est aussi des termes comme ça, un peu à la mode. Mais nous, c'est pareil, on a eu le terme de tradition, le terme d'exotisme, qu'on remet en question. Il n'y a pas de tradition, en fait. C'est tout le temps en mouvement.
François Pastot, pourquoi est-ce si intéressant de faire voyager dans l'assiette? Parce qu'au fond, on peut se dire qu'on aime retrouver... des goûts de tous les jours. On dit aussi souvent qu'on est dorloté par certaines saveurs. Il y a l'idée de l'aliment doudou, de la recette réconfortante, de la cuisine de famille. Mais qu'est-ce qui se joue dans la recherche de la nouveauté, dans l'émotion d'un goût peu croisé, voire rencontré pour la première fois?
Alors, c'est vrai qu'on a toujours le souvenir du plat, de la grand-mère, de la mère, du papa, enfin bon, bref. En mémoire. Et puis après, d'un autre côté, on a envie de voyager quand on va au restaurant, ou même, je dirais, chez soi, parce que la gastronomie, ça ne veut pas dire une cuisine compliquée. La gastronomie, c'est avant tout cuisiner des produits de qualité d'une façon relativement simple et d'amener des saveurs, des goûts, des textures qui vont apporter beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que dans nos restaurants, nous les cuisiniers, ce qu'on veut faire, c'est quand vous venez chez nous, mais quand vous venez même chez nous à notre domicile, hein, c'est pareil, on a envie de vous donner du plaisir. La cuisine, c'est la générosité, la convivialité, et on a envie de vous faire voyager avec des saveurs que vous ne connaissez pas, ou des, je dirais plus des mariages que vous ne connaissez pas, parce que Les saveurs, souvent, vous les connaissez, mais les, on a envie de vous surprendre avec des mariages de entre terre-mer, entre l'acidulé et la mer, avec des aromates que vous n'auriez jamais mariés avec tel ou tel légume ou telle ou telle protéines animales, etc. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de l'exotisme, en fait. Et quand vous prenez, ne serait-ce que si vous avez la chance dans votre jardin d'avoir différents aromates que vous allez ramasser tout frais et vous allez simplement faire un bouillon de poulet avec la carcasse du poulet, vous allez rajouter au dernier moment ces aromates dedans, et bien vous allez avoir une explosion de saveur à ce moment-là qui va plus du tout être la même si le bouillon refroidit après et que vous allez réchauffer une autre fois pour le mettre et le marier avec un poisson, par exemple, après, ou un autre légume. Et c'est ça, en fait, un peu le de vous faire voyager, c'est de faire des mélanges de la cuisine. La cuisine, c'est quoi ? C'est des mélanges, c'est des mariages avec les produits.
Est-ce qu'il y a des produits qui viennent de loin, géographiquement, mais dont vous avez du mal à vous passer, qui sont importants encore dans vous, dans votre cuisine ?
Alors, c'est vrai que maintenant, on s'est approprié beaucoup de produits, et puis on en cultive en France. Enfin, bon, par exemple, le curcuma frais, vous pouvez vous amuser à en cultiver chez vous, le gingembre également. Mais c'est vrai que souvent, les produits que je faisais venir de loin, ce sont les épices. Parce que les épices, on n'en a pas en France. Mais ce n'est pas très impactant en termes d'empreinte carbone, puisqu'on en met très peu quelque part. Ça, effectivement, enfin, moi, je ne peux pas m'en passer dans ma cuisine. Je ne mets pas des épices à outrance, mais j'aime bien cuisiner les épices. Après, je peux tout à fait me passer d'ananas, de mangue, de banane. Bon, pourquoi pas ? Parce qu'on peut tout à fait, l'hiver, se régaler avec des pommes, des poires, voilà, des oranges qui viennent d'un petit peu moins loin. Mais je dirais, on a tellement de choses autour de chez nous, en France, voire un petit peu plus loin en Europe, qu'on peut tout à fait faire une cuisine exotique, savoureuse, avec ces produits de proximité, quelque part. Quand on va à l'étranger, dans un pays, on va goûter des produits qui sont de là-bas. On peut s'imprégner de la cuisine, des technicités qu'on a trouvées là-bas, rapporter, en fait, les saveurs qu'on a en mémoire, et essayer de le reproduire avec nos propres produits dans notre propre pays.
Une limite que personnellement je vois au locavorisme, même si au maximum j'essaie de consommer des ingrédients qui n'ont pas pris l'avion, c'est que je me dis que le locavorisme, il n'est pas non plus facile pour tout le monde. Par exemple, de mon côté, en ayant des origines vietnamiennes et en ayant aussi cette envie de continuer certaines recettes de famille, de venir convoquer des souvenirs, il y a des moments où je suis bien en peine de ne consommer que local et je vais quand même faire appel à des condiments ou des sauces qui viennent d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être un point qu'on peut souligner à propos de l'exotisme et de l'éco-responsabilité. C'est que peut-être que malgré tout, quand c'est sporadique et qu'on sait pourquoi on le fait, ça peut être important encore d'inviter ces produits dits exotiques dans
oui, il faut pays. Pas il faut pas se fermer aux frontières, bien sûr, il faut pas être intégriste, il faut pas se dire on va manger que des produits français, effectivement, et se fermer à toutes les épices, tous les produits dont vous parlez dans notre cuisine.
Denis Saya, vous nous avez dit tout à l'heure qu'on a eu cette idée reçue de la France comme fermée à l'exotisme parce que fière de ses terroirs. Mais
C'est pas tout à fait parce qu'elle est fière de ses terroirs, c'est parce que elle est fière de son savoir-faire culinaire. C'est-à-dire que à partir du XVIIe siècle, ce qui n'était pas le cas avant, hein, parce que je pense que tout le monde le sait, hein, au XVIe siècle, les grandes vedettes en cuisine, comme d'ailleurs en art, ce sont les Italiens. Et à partir du XVIIe siècle, les chefs français, disons, inventent une nouvelle codification pour cuisiner. Et arrive à l'imposer au reste du monde, on va dire, occidental, et puis, comme l'Europe colonise, au reste du monde tout court. Donc c'est surtout ça. Après qu'il y ait des terroirs, dans le royaume et tout ça, oui, c'est vrai. Hein. Mais c'est surtout une question que les chefs français, finalement, disent et passent pour être les meilleurs du monde pendant très longtemps. C'était le cas jusqu'au moins dans les années 60. Et c'est logique aujourd'hui que la haute cuisine française soit beaucoup plus concurrencée. On est au temps de la mondialisation. Mais il faut bien se rendre compte que du XVIIe siècle jusqu'aux années 1970, il y a cette fierté française de donner le là au monde entier en cuisine. En tout cas, au moins pour les grands restaurants, parce que évidemment, le monde entier a continué à développer ses propres cuisines populaires, on va dire.
Et est-ce qu'aujourd'hui, cette fierté dont vous parlez, est-ce qu'on la retrouve dans le discours politique de certaines personnes ou de certaines personnes même médiatiques?
Oui.
Ce côté un peu harnaché à ce que devrait être la cuisine française.
Alors, bon, il est évident que dès qu'on parle de cuisine, il faut voir que derrière, il y a des enjeux. Alors, avant les enjeux culturels ou politiques, il y a des enjeux économiques, puisqu'on a toute notre agriculture quand même française à défendre. On a nos terroirs, là, comme vous disiez, là, qui est une notion beaucoup plus récente hein, que la notion des chefs cuisiniers français meilleurs, entre guillemets, que les autres, soi-disant, hein, supposés meilleurs que les autres. Il y a cet enjeu économique, mais assez vite, effectivement, on peut avoir un discours culturalo-politique et même très politique de fierté nationale. Pas seulement en France, d'ailleurs, hein, mais bon, en France, comme il y a quand même cette relation France-gastronomie qui remonte donc au grand siècle de Louis XIV. Donc ça fait quand même 3 siècles et demi. Hein, vous voyez que les petites Françaises et les petits Français, on leur répétait qu'on avait la meilleure cuisine du monde. Donc même si on n'y croit pas forcément et que quand on va à l'étranger, on peut faire de magnifiques découvertes, soit en Italie, soit dans le monde plus lointain. Plus on répète cette une idée, plus on a du mal à s'en défaire quand même. Et cette défense de la culture nationale et de la cuisine nationale peut effectivement, et à certaines époques, c'est le cas aujourd'hui, hein, dériver vers quelque chose qui, pour moi, je donne mon avis personnel, mais bon. C'est quand même quelque chose qui m'est très à cœur, même si on a une période politique actuellement d'élection. Il peut y avoir une dérive, voyez, nationaliste, hein, donc plutôt d'extrême droite, d'un discours, par exemple, hein, c'est assez connu, dans les années 1930, sur la cuisine, il y a un discours de rejet de l'étranger, sur les religions étrangères, sur les cultures étrangères, sur les cuisines étrangères, qui est presque dominant, par exemple, dans la presse populaire française. Et aujourd'hui, c'est moins répandu que dans les années 30, mais il faut quand même pas aller très loin pour trouver ce genre de discours, qui est peut-être moins massif, si vous voulez, qui est peut-être un petit peu plus subtil, un petit peu plus... Il faut aller un petit peu... Oui, un peu plus sournois, il faut aller un petit peu chercher dans les textes, mais pas forcément moi, hein, mais d'autres chercheurs qui travaillent sur les textes ou sur les vidéos ou sur les films, donc on a l'habitude, nous, de décrypter le discours culinaire, le discours sur l'alimentation, ça se repère tout de suite, si vous voulez. Il y a des mots clés qui peuvent être... et les mots sont un peu... C'est piégé. Hein. Je vous donne juste un exemple hein, qui est un peu contraire de l'exotisme. Le terme, l'adjectif authentique. Alors, si quelqu'un prononce le mot d'authentique, ce n'est pas forcément connoté nationaliste d'extrême droite. Hein, mais si ce mot-là vient avec d'autres termes qui sont un peu dans le même champ sémantique, un peu donc dans les mêmes connotations, là, tout de suite, un chercheur, il va y avoir une lampe qui va s'allumer dans notre cerveau et on va se dire « Ouh là là !» Et c'est malheureusement souvent confirmé quand on regarde un peu qui est-ce qui parle. Parce qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de regarder quel est l'auteur de ce discours, qu'est-ce qu'il a dit d'autre. D'autant plus que je me suis aperçu que beaucoup de personnes parlent de cuisine sans trop faire attention à ce qu'on dit, parce que, a priori, c'est pas politique de parler de cuisine. C'est les goûts, les couleurs, les saveurs. Et en fait, le discours sur la cuisine peut révéler beaucoup de choses sur la personne qui parle. Moi, j'ai étudié les journalistes gastronomiques des années 30, hein, ça fait bientôt 90 ans maintenant, dont le plus célèbre, hein, qui portait un pseudonyme russe, mais qui était bien français, qui porte presque le même nom que moi d'ailleurs, qui était Maurice Edmond-Saillant, dont le pseudonyme était Kurnonsky. Kurnonsky, quand on étudie bien sa prose, c'est quand même très, très, très connoté défense franco-française.
Il se moquait des modes étrangères.
Des modes étrangères. Le cocktail, par exemple. Tous les cocktails, c'était réputé pour américains à l'époque. Et par rapport à nos vins français, du terroir, c'était pas bien, hein, ces mélanges de cocktails. Ça voulait pas dire qu'il n'aimait pas forcément ce qui était étranger. Il avait fait un voyage dans sa jeunesse. Voyage de presse, je crois, sur un paquebot. Il est allé jusqu'en Indochine, hein, donc le Vietnam, le Laos. Et il est revenu avec une très, très bonne idée de la cuisine du sud-est asiatique. Mais qu'elle reste là-bas. que la France ne l'importe pas dans l'Hexagone. Voyez, donc,
il y a encore des Kurnonsky, d'ailleurs, aujourd'hui, ouais. Quand on regarde certains critiques gastronomiques du côté de la presse centre-droit. Il y a cette fétichisation aussi de l'authentique, de l'essence de la cuisine française.
Si vous voulez prononcer le mot, c'est un discours en fait qui n'est pas forcément d'extrême droite. Kurnonsky n'a jamais été dans un parti politique, hein, mais c'est un discours donc qu'on appelle en philosophie, en histoire, en anthropologie, un discours essentialiste. Les choses doivent garder leur nature, ne doivent pas être dénaturées. Donc la cuisine française de nos terroirs ne doit pas être dénaturé par l'exotisme. Alors, si Kurnonsky revenait en 2022 en France, je crois qu'il quand même il pousserait des cris. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'un outil théorique dont on dispose en anthropologie, en ethnologie, pour éclairer la question de l'exotisme culinaire? Je pense par exemple à la créolisation, l'hybridation culinaire.
Oui, alors il y a Laurence Thibert qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là en rapport avec l'exotisme et qui a une, et c'est des termes d'ailleurs qui ont été très à la mode, hein, le bricolage, le mélange, la créolisation qui est un terme emprunté à Édouard Glissant, hein, la créolisation du tout monde, qui est un poète. Et donc elle a travaillé donc en Europe, donc sur l'Europe, sur les Indes, le Pacifique, les Antilles, etc. Et c'est vrai que cette notion-là, chez elle, sur les terrains qu'elle a étudiés, lui permet d'étudier une réalité des modèles alimentaires en évolution, où il y a des emprunts. Et donc des emprunts avec des transformations finalement, aussi bien des plats préparés et consommés que du coup de pratiques alimentaires qui vont avec. Et c'est typiquement un outil conceptuel. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des ethnologues qui vont le transposer à d'autres modèles alimentaires dans d'autres cultures et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que justement, et là c'est important, il faut toujours contextualiser historiquement et géographiquement une recherche. Sinon, après, les mots deviennent des mots à la mode, des mots valises, et ils perdent de leur sens et de leur substance finalement. Mais c'est vrai que des fois, les modes ont la vie. elles ont. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Denis, je me demande aussi si cette suprématie française ne tient pas aussi à cette culture de l'écrit et aux livres de recettes. Ça me fait penser à une anecdote. On est allé faire un colloque avec Éric Trochon au Japon et il voulait absolument. Moi, je suis venue avec des collègues et Éric Trochon pour faire un colloque au Japon avec des chefs et des chercheurs japonais. Et en fait, ils nous ont un petit peu bloqués dans une salle et ils voulaient qu'on les aide à faire un escoffier. Parce que au Japon, les recettes chez les chefs cuisiniers dans la haute cuisine ne se transmettaient ne se transmettent encore aujourd'hui pas par écrit mais par oral. Et comme là, justement, le monde culinaire japonais est en train de s'ouvrir au monde, et qu'il y a des mélanges qui se font, des emprunts, et pas qu'avec l'Asie, il y a une forme de sentiment, de sensation et de peur, justement, de ce mélange et de perdre une forme d'authenticité, il faut le dire, mais aussi de terroir, de territorialité, donc d'identité. Donc il y a à la fois une attirance et une crainte. C'est un double mouvement, en fait, l'exotisme. Hein. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec cette île. Elle a une ambivalence, une ambiguïté. Et c'est des choses qu'il faut savoir combiner. C'est une gymnastique de l'esprit, une gymnastique du corps. Et ça passe par le goût. Donc c'est pas rien, en fait, puisqu'on incorpore, on ingère les choses. Hein, on ingère les aliments, les boissons. Et on s'incorpore au monde en faisant ça, donc ça nous identifie et c'est hyper important. Ça définit des sentiments d'appartenance auxquels l'être humain ne peut pas échapper, en fait. L'idée de la créolisation, justement, elle est intéressante à ce niveau-là parce que ça demande, il y a une exigence là-dedans qui est de tomber les barrières et de ne plus avoir peur de la rencontre, de la relation, de cet enrichissement.
On parle donc de cet enrichissement des goûts à travers des ingrédients. Et tu me disais aussi un point que je trouvais passionnant quand on s'est eu au téléphone avant cette table ronde. Tu me disais que l'exotisme, l'ailleurs, ne passe pas forcément par des ingrédients, mais peut aussi passer par des manières de faire, des manières de cuisiner, de s'occuper d'un ingrédient et de le sublimer. Est-ce que tu as des exemples de ça ?
C'est vrai que nous, les cuisiniers, maintenant, on a la chance de pouvoir beaucoup plus voyager qu'avant. Enfin, on voyage beaucoup plus qu'avant et on s'est beaucoup imprégné des techniques de cuisine de l'étranger. Je dirais, il y a des exemples tout simples comme quand vous faites griller un poisson ou une viande sur un barbecue japonais, qui est un barbecue qui cuit très lentement, qui ne va pas, attaquer la viande ou le poisson, vous allez avoir une saveur, un goût complètement différent que sur un barbecue avec des braises fumantes et très agressives, en fait. Par exemple, on se sert d'autres technicités comme des technicités de conservation aussi, qu'on peut tout à fait s'approprier, comme des légumes fermentés, par exemple, que vous allez mettre fermenter des légumes de saison, que vous allez pouvoir réutiliser hors saison, puisque forcément, ils ont été mis dans des bocaux, et que vous allez incorporer avec des produits frais de saison. Et ça va complètement changer la nature de l'assiette, la texture de l'assiette, les saveurs. Et ça, c'est très intéressant. C'est des techniques qui sont d'ailleurs des techniques encore plus nordiques que les nôtres. C'est-à-dire la fermentation, c'est ce qu'ils utilisaient dans les pays du Nord parce qu'ils avaient très peu de culture. Je pense que tu es d'accord avec moi, Denis, là-dessus. Il y a les techniques de fumage aussi qu'on a appris d'autres pays qui nous ont permis aussi de découvrir des saveurs différentes. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des produits, c'est vrai qu'avec toutes ces techniques différentes, j'en oublie plein d'autres, hein, mais on peut vraiment avancer et s'amuser et faire découvrir des textures, des saveurs, du moelleux, du croustillant, des mélanges qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France. Et la cuisine française, c'est une cuisine très métissée. Hein. Je suis d'accord avec toi, comme tu dis, il ne faut pas se fermer aux frontières. C'est une cuisine qu'on a toujours fait avec des produits qui venaient d'ailleurs, et qui après, on a réussi à cultiver près de chez nous aussi. Alors, quand je disais tout à l'heure, il faut éviter de les prendre trop loin, c'est vrai, il faut éviter de faire venir les produits qu'on peut trouver chez nous, achetons-les chez nous. Les autres produits qu'on ne trouve pas chez nous, effectivement, on peut en faire venir, éviter de ne cuisiner qu'avec des produits qui viennent d'ailleurs, parce que, effectivement, c'est pas très bon pour la planète. Voilà.
Est-ce qu'on a d'autres exemples d'exotisme vu d'autres pays ? Et là, je me tourne vers vous, Denis Saillard. Clairant,
ce que vient de dire François me donne tout de suite une idée, c'est le Japon. Le Japon a, pendant très 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 longtemps, vu la cuisine française comme complètement exotique et autre et très très difficile à ingurgiter, pour le coup, dans l'archipel nippon. En grande partie à cause des techniques de cuisson traditionnelles françaises, c'est-à-dire de cuire quand même pas mal la viande, de cuire pas mal de poisson, alors que les techniques de cuisson, aussi bien pour la viande et donc surtout pour le poisson, du Japon sont tout autres. Et ça change complètement à partir des années 70. Moi, je suis ancien, donc pour moi, c'est il n'y a pas très longtemps, mais ça fait déjà un demi-siècle. Mais bon, quand on regarde sur plusieurs millénaires, donc c'était quasiment hier, alors qu'il y a eu ce fossé entre les deux cuisines japonaises et françaises pendant vraiment des siècles et des siècles. Pourquoi ? Parce que la haute cuisine française change avec ce qu'on a appelé à l'époque, ça n'est plus, l'adjectif est différent aujourd'hui, on a appelé ça la nouvelle cuisine. Avec justement les frères Trois-Gros, par exemple, des chefs comme Sander Reims, etc. Donc les chefs français vont prendre l'habitude de beaucoup, beaucoup moins cuire les viandes et poissons. Et du coup, la haute cuisine française devient acceptable pour les Japonais. Et encore aujourd'hui, 50 ans après, beaucoup, beaucoup de grands chefs français ont un restaurant au Japon. Alors que ce n'était pas du tout le cas en 1900, Escoffier, à la Belle Époque, il était très respecté au Japon, mais les Japonais ne mangeaient pas de la cuisine d'Escoffier. Voyez. Donc là, pour le coup, l'exotisme a été réduit parce que le pays qui paraissait autre, le pays qui paraissait exotique, c'est d'une certaine manière, involontairement, rapproché de soi. Les Japonais ont considéré que la France se rapprochait du Japon. Donc c'est assez étonnant comme réduction du fossé, parce que la mode française change à cette époque-là.
Et le déplacement donc est soudainement devenu acceptable, plus acceptable.
Oui, oui, tout à fait.
Pour prolonger la réflexion, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter l'épisode 104 de Bouffon, dans lequel on se demande si la cuisine française est réellement la meilleure au monde. Il y a aussi l'épisode 140 sur les limites du locavorisme, ou encore l'épisode 110 qui s'intitule « Qu'est-ce qui nous a pris avec la cuisine fusion ?». Merci à Sandrine Roulman, Denis Saillard et François Pasteau de m'avoir donné de leur temps pour parler d'exotisme. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Maillot.